écouter avec plaisir. Et puis le principe pour les nouvelles personnes qui sont ici ce soir, on lui posera, on l'embêtera un peu, on se permettra de te poser quelques questions parce qu'on n'aura pas tout compris peut-être.
Beaucoup, beaucoup de questions.
Donc beaucoup de questions. Et ce sera la deuxième partie, la deuxième heure, on va dire. La première heure, on va voir toute cette présentation, on va mieux connaître Lévinas. Et après, on se promènera et on vous passera le micro. Et n'ayez pas peur. Voilà.
Merci Jean-Albert. Alors, j'ai prévu quelque chose d'un peu long. Je vais sûrement sauter des diapos au fur et à mesure en fonction de l'avancée de l'heure. Parce que mon moment préféré, c'est quand même le temps des questions. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup et qu'on aura l'occasion de bien discuter après ma présentation. Voilà. Alors je vous demande par avance de bien vouloir excuser le bilan carbone de cette soirée qui va être assez désastreux. Mais tant pis, on sauvera la planète une autre fois. Donc direction les États-Unis. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on va dire ça comme ça.
Oui, bien sûr.
Tant pis. Donc la Mecque de l'escalade aux États-Unis. Donc nous sommes en mai 1985. Et il va s'agir de gravir cette immense paroi, très célèbre aux États-Unis et pour les grimpeurs du monde entier, qui s'appelle El Capitan. Et pour deux grimpeurs américains, qui s'appellent Randy Levitt et Greg Child. Il va s'agir en fait d'ouvrir une nouvelle voie. Dans cette, je casse le suspense d'entrée, ils vont réussir, hein, ils vont ouvrir cette voie qui va s'appeler Lost in America. Donc ils ne vont pas se perdre en Amérique, ils vont bien se retrouver en haut du sommet. Et la question évidemment, c'est comment y parvenir. Vous avez vu la configuration des lieux. Donc ils ont réfléchi, au départ ils se sont dit, bon, on va tenter une directissime. Donc on va essayer de monter tout droit. Et puis vous voyez dans cette tache noirâtre, là, cette coulée géologiquement assez impressionnante, est à peu près impossible à escalader. Et donc ils se sont dit qu'il fallait trouver une autre solution. Donc plutôt que de grimper en directissime, eh bien ils ont tenté une traversée latérale. Et c'est cette traversée latérale en fait qui leur a permis d'ouvrir cette voie et d'entrer dans la légende de l'escalade moderne. Alors tout ça pour vous dire que aller d'un point A à un point B par une ligne directe, toute droite, ça ne me paraît pas forcément la méthode la plus adaptée. Donc il y a des chances qu'on fasse des petits détours. C'est la nuit sur Washington. Et à la faveur de la nuit, en ce 17 juin 72, eh bien, cinq hommes entrent dans un bâtiment pour y placer des micros, pour espionner en ces temps d'élection américaine, pour espionner en fait le Parti démocrate, puisque ce bâtiment, vous l'avez deviné, vous l'avez reconnu, c'est le Watergate. Et ces gros balourds vont se faire prendre tout de suite. Et ça va donner naissance au plus grand scandale de l'histoire américaine, pour l'instant, parce qu'on verra ce qui nous attend, qui va pousser le président Nixon à la démission, avant que celui-ci ne soit déclaré incompétent par la Cour suprême. Mais ce scandale, en fait, en cache un autre, et c'est de cet autre scandale dont je veux vous parler en fait, ce soir. Donc, direction New York, le 28 IR 5764, après la création du monde. Donc ça doit nous faire à peu près le 28 mai 2004. Et il va être question de salade. Alors je vais en raconter pas mal ce soir, hein. Je vais m'excuser. Vous savez, le problème de la salade, c'est qu'en fait, selon la saison, il y a beaucoup de bestioles et il faut la laver très 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 soigneusement pour éviter d'ingérer toutes ces petites bêtes qui sont peu succulentes et qui sont surtout interdites par la loi juive. Exemple, ce verset du Lévitique, tout ce qui n'est pas pourvu de nageoires et d'écailles dans les mers, les rivières, soit qui pullule dans l'eau, soit les animaux qui l'habitent, vous sont abominables. Donc, il est interdit par la halakha, par le droit rabbinique, d'ingérer toutes ces petites bestioles, d'où les précautions à prendre lorsque on lave la salade. Or, à New York, à cette époque, eh bien, une petite... en fait, les eaux de la ville, le réseau de la ville, en fait, a été infesté par une petite bestiole au nom à peu près imprononçable, qui ressemble très exactement à ça. Et donc, les juifs de New York, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, eh bien, ne pouvaient plus consommer l'eau du réseau urbain, parce que l'eau n'était plus cachère. C'est à se demander ce que fait la police. Alors les solutions, il y en a, il y a plein de solutions. La première solution, écoutez, c'est quand même pas très compliqué, hein, si l'eau a des bactéries dedans, qu'est-ce que vous faites pour la filtrer? Vous mettez un filtre sur votre robinet. Voilà, ça paraît quand même simple. Sauf que cette solution n'en est pas une, à cause des bancs, en fait. À cause des bancs. Alors, vous voyez pas le rapport, mais un talmudiste voit le rapport. Ça lui paraît à peu près évident. Le rapport, c'est qu'en fait, dans le traité Betsa, on a un enseignement de Rabbi Shimon qui explique que un jour du Shabbat, il y a tout un tas d'activités qui sont interdites le Shabbat, et notamment donc de labourer, de creuser des sillons dans la terre. Donc si vous êtes dans votre jardin un jour du Shabbat et que vous voulez vous mettre à l'ombre d'un arbre, par exemple, parce que le soleil tape trop fort, vous allez déplacer la chaise. Mais si vous déplacez la chaise, vous allez creuser des sillons dans l'herbe. Donc c'est interdit. Mais selon Rabbi Shimon, si vous voulez juste déplacer la chaise pour déplacer la chaise et non pas pour creuser des sillons dans la terre, à ce moment-là, vous n'avez pas l'intention de creuser des sillons dans la terre, même si vous déplacez la chaise, qui va creuser des sillons? Et donc, ça n'est pas interdit, mais c'est autorisé. Puisque vous ne faites que déplacer la chaise. Votre intention n'est pas de labourer la terre. Donc, c'est autorisé. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait très bien imaginer mettre des filtres au robinet, vous me suivez, puisque même un jour de Shabbat où il est interdit de trier, en fait, vous ne triez rien du tout, vous placez votre filtre et en fait, quand vous allez actionner le robinet, vous ne voulez pas trier, vous voulez prendre de l'eau. Donc vous n'avez pas l'intention de trier. Donc a priori, on ne voit pas pourquoi il serait interdit de trier. Donc les filtres sont parfaitement cachés. Tout va bien?
Il y a un raisonnement.
Bon, seulement, c'est pas évident parce qu'en fait, ces filtres, contrairement à la chaise ou au banc que vous allez déplacer dans votre jardin, vous voyez la différence entre le filtre et le banc. Vous voyez bien? C'est qu'en fait, le banc, vous allez le déplacer. Peut-être qu'il va creuser des sillons, peut-être pas. Ça dépend de la qualité de la terre, du poids du banc, de comment vous y prenez, etc. Donc il n'est pas certain que la conséquence, le déplacement du banc, en fait, que la cause entraîne une conséquence qui serait de creuser le sillon. Vous voyez? Or, il y a un principe qui dit « psikrisha velo yamut », c'est-à-dire, alors c'est l'humour talmudique, hein, c'est-à-dire, alors, c'est, en araméen, ça veut dire « ah oui, tu veux lui couper la tête et qu'il ne meure pas ». Donc, psikrisha velo yamut, ça veut dire, c'est un argument qu'on oppose, on dit attention, même si tu n'as pas l'intention d'entraîner une conséquence, si la conséquence est inévitable, c'est comme si tu avais l'intention. Parce que tu sais très bien à l'avance qu'elle est inévitable. Donc, le caractère absolument nécessaire de la conséquence équivaut à une intention. Et donc, le filtre, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, il faut trouver une autre solution. On y va. Alors, étrange parallèle entre le chameau et le pou, a priori. Il y a autant de ressemblance entre un pou et un chameau qu'entre un filtre de robinet et un banc. Et pourtant, Rabbi Eliezer, celui qui tue des poux le Shabbat est semblable à celui qui tue un chameau. C'est-à-dire que c'est interdit en gros. Hein. Mais Rabbi Yosef, il dit non, pas forcément, parce qu'en fait, la différence entre le chameau et le pou, c'est que le chameau, en fait, quand il veut des enfants, il faut qu'il fasse ce que vous savez avec la chamelle. Le pou, lui, il se reproduit par génération spontanée, et non pas par génération sexuée. Voilà. Donc, ce sont deux catégories de reproduction complètement différentes, et donc ce sont deux catégories d'animaux complètement différents. Et donc, selon Rav Yosef, il n'est pas interdit de tuer des animaux qui ne sont pas créés par génération sexuée. Donc vous pouvez écraser un pou un jour de Shabbat. Eh bien, ça nous soulage. Hein. Alors, attendez, quel rapport avec le robinet déjà? Oui, donc vous pourriez détruire les bestioles qu'il y a dans l'eau, en fait. Voilà, en fait, vous pourriez détruire les bestioles qu'il y a dans l'eau. C'est ça, voilà, c'est ça, en fait. C'est là où on voulait en venir. Le problème, c'est qu'en fait, Rabbi Yehuda Hanassi, alors Rabbi Yehuda Hanassi, pour situer, c'est fin du deuxième siècle. C'est quand même le monsieur qui a mis par écrit la Mishnah, c'est-à-dire les lois, la première compilation de lois orales, en fait. Donc Rabbi Yehuda Hanassi dit, oui, le problème, c'est que, vous voyez, bon, les avis divergent, c'est-à-dire que nous, nous avons certaines opinions scientifiques, sur les fous, par exemple, ou sur les planètes, la façon dont le soleil se déplace, etc. Et puis les sages du monde entier, ils ont d'autres théories scientifiques. C'est le propre des théories scientifiques que de diverger, de créer des controverses scientifiques. Or, Rabbi Yehuda Hanassi, il dit, mais en fait, il ne faut pas dédaigner les théories scientifiques qui sont proposées par les scientifiques non-juifs. Il faut savoir reconnaître la supériorité de la science non-juive lorsque leurs arguments sont meilleurs que les nôtres. Et donc, vu que Pasteur a démontré qu'il n'y a pas de génération spontanée, et que tous les animaux, toutes les bestioles, même les plus petites, même dans l'eau des tuyauteries de New York, elles ne sont pas créées par génération spontanée, mais par génération sexuée, et bien le pou ou les bactéries de New York, ben c'est comme le chameau. Vous n'avez pas le droit de les tuer le jour de Shabbat. Donc la solution, elle ne vaut rien. Donc il faut en trouver une autre. Alors, troisième solution à envisager, bon, je prends un exemple culinairement qui me parle au fait une daube provençale. Vous n'avez pas oublié les olives, rien de tout ça, un peu de fenouil pour changer un peu. Et malencontreusement, vous avez votre verre de lait à côté, et il y a quelques gouttes comme ça qui éclaboussent, et le lait va se mélanger à la viande. Vous savez bien que c'est un interdit. Hein. Il ne faut pas mélanger les aliments lactés, les aliments carnés selon la loi rabbinique. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jeter la daube? Est-ce qu'on va la donner pour ne pas la jeter? Non, on ne peut plus la manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a une règle, en fait. Il y a une règle. Il y a une règle. Qui veut que... ça dépend du ratio, en fait. C'est vrai que j'ai préparé ça avant le... Voilà. Enfin bon, bref. Je savais pas. Voilà. J'allais raconter ça, alors sans même... On n'a plus de gouvernement, mais enfin, c'est pas grave. On a des bestioles dans l'eau, mais on n'a pas de gouvernement. C'est comme ça. Et donc, il y a la règle de Betul Peshishim, c'est-à-dire l'annulation dans 1/60. C'est-à-dire que si le lait qui est tombé dans la viande représente moins de 1/60 du volume total, il y a une fiction juridique qui vous permet de considérer que le mélange, il est cachère parce que le lait se dissout, il est annulé. Il me va-t-elle? Il y a un bitoul, il y a une annulation. Donc juridiquement, si ça ne dépasse pas le seuil du 1/60, on va estimer que ça n'existe pas. D'accord? Donc les bestioles dans l'eau de New York étant toutes petites, leur volume n'excède pas 1/60. Et donc, on peut tout à fait considérer bien, en fait, que légalement parlant, bien, elle n'existe pas. Sauf que, il y a un autre principe qui est Gria Afilub Elef Lobatil, c'est-à-dire une créature. Hein. Gria, c'est la créature. C'est-à-dire que ces petites bestioles, certes, elles ne représentent pas en termes de volume, en termes quantitatifs. Elles ne représentent pas 1/60. Mais ce sont des animaux entiers. Ce sont des créatures au sens talmudique du terme, donc elles sont entières. Or, un animal entier ne peut pas être annulé. Parce que le seuil de 1/60, il est quantitatif, et que là, qualitativement, vous avez autre chose. Vous avez affaire à un animal, pas à une portion d'animal. Si vous avez, je sais pas moi, une aile d'abeille ou une patte de mouche dans votre ragoût, c'est pas grave. C'est un membre. C'est pas un animal entier, c'est pas Bria, c'est Ever, et donc la règle de Bitoul Bechichin, ça marche. Mais pour un animal qui est entier, ça marche pas. Donc vos bestioles, vous pouvez pas les annuler comme ça. Donc cette solution n'en est pas une. Donc il faut en trouver une autre. Ah oui, j'étais censé vous parler de... Oui, j'étais censé vous parler de... Oui, pardon, je me suis un petit peu égaré. Bon, Voilà, ben c'est, oui, en fait, bon, alors en fait, ce qui, oui, bon, évidemment, ce qui a l'air d'être une digression n'en est pas une, évidemment. En fait, la solution, elle est assez simple. C'est-à-dire que ces bestioles qu'il y a dans l'eau, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc je vais commencer à parler un petit peu en lévinassien, en phénoménologue, en philosophe. C'est-à-dire que phénoménologiquement parlant, vos bestioles sont dans l'eau ne sont pas un phénomène visible. Il n'y a pas de perception possible par un sujet percevant. C'est ça. Donc la bestiole, en fait, elle a un statut infra-phénoménologique. Elle n'atteint pas le seuil de détection par la perception humaine, si vous voulez. Et donc, on a un principe halakhique, donc selon la loi rabbinique, qui dit que la halakha ne se soucie en fait que de phénomènes visibles, perceptibles par les sens, que ce soit le toucher, la vue, peu importe. Mais quelque chose qui n'est pas perçu par les sens, donc à une échelle macro, si vous voulez, non pas micro, n'existe pas au regard de la loi. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Que ces bestioles soient dans l'eau ou pas, peu importe. Ils n'ont pas de goût, on ne peut pas les détecter à l'œil, tant qu'elles ne sont pas là en fait. Donc la beauté de cette solution, ça n'est pas qu'elle résout un problème, c'est qu'elle élimine le problème. Ce qui est mieux, ce qui est beaucoup plus satisfaisant pour l'esprit. Ça dépend des gens, mais moi je trouve que c'est plus satisfaisant de se débarrasser du problème que de trouver une solution. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en septembre quand Rabbi Nathan Alfred était venu, il nous avait présenté ce tableau d'un artiste israélien. C'est l'humour, voilà. C'est deux microbes qui discutent et qui disent « Toi, à ton avis, Dieu, il est comment ?» Et l'autre, il lui dit « Bah, Dieu, c'est un microbe. » Vous voyez ce que je veux dire ?
On le voit pas.
On ne le voit pas, on ne sait pas. Enfin, mais il n'est pas perceptible, voilà. Pas perceptible, donc... Bon. Et bien en fait, le visage, c'est pareil. Le visage, c'est comme les petites bestioles dans l'eau du réseau de New York. Le visage, selon Lévinas, ça n'est pas un phénomène qu'on pourrait capter par la perception ordinaire. C'est un infra-phénomène. C'est quelque chose qui relève de notre ordre. Un petit clin au littéraire. Et on pourrait dire finalement que le visage, c'est un peu ce que dit Cyrano, finalement, ce qu'on peut dire du nez, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu court, quoi. C'est pas trop quoi en dire, en fait. On pourrait dire beaucoup de choses, mais les descriptions qu'on va accumuler, les points de vue qu'on va faire varier sur le visage, qu'est-ce que ça va nous dire du visage ? C'est extrêmement complexe, en fait. Il faut déjà commencer par ça. Il y a une complexité qu'il ne faut pas sous-estimer lorsqu'on veut parler du visage chez Lévinas. Alors, petit souvenir de latin de 5e. Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, car il ne savait pas qu'il allait servir à ça, mais peut-être qu'on pourrait dire que ce bref extrait... d'un essai célèbre sur la dignité humaine, ça pourrait nous aider à cerner de ce dont il retourne en fait pour le visage chez Lévinas. Nakertam sedem nek propriam fakiem tibi de dimus ovadam. Ovadam, je ne t'ai pas attribué de place fixe dans l'ordre du monde. Je n'ai pas défini les traits de ton visage. Je ne t'ai pas donné un visage reconnaissable. Pour que tu puisses. Le vouloir, le désirer. Et ça, c'est quand même une définition qui est très intéressante parce qu'en fait, elle rejoint certaines intuitions de Maïmonide, par exemple, ou de Maître Eckhart, c'est-à-dire des maîtres de la philosophie médiévale et puis de la théologie négative. C'est-à-dire que le visage, en fait, c'est un peu comme Dieu au sens où on ne peut le définir que négativement. Il est très difficile de dire positivement ce qu'est le visage pour Lévinas. On a beaucoup de définitions à l'emporte-pièce qui circulent, mais si on veut bien se pencher sérieusement sur la question, c'est quand même très difficile. C'est facile de dire ce qu'il n'est pas, c'est beaucoup plus compliqué de dire ce qu'il est. Précisément parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut percevoir, ce n'est pas un phénomène qui serait appréhendable par les sens. Alors ce qu'il n'est pas, alors le visage n'est pas un masque, n'est pas une figure, n'est pas le faciès, ce n'est pas une caricature. Alors la caricature, oui, parce que la caricature c'est une simplification abusive du visage. On dessine un grand trait, mais ça n'est pas ça le visage. Le masque, il y a une fixité, on parle de masque mortuaire, par exemple. Il y a quelque chose dans le masque qui ne dit pas ce qu'est le visage dans ce qu'il a de plus vivant. Dans la mesure où il renvoie à l'humanité même de l'homme. Pas une figure non plus, parce que la figure, ça rappelle figure géométrique, configuration, c'est trop schématique. Trop abstrait. Or, le visage, c'est un infra-phénomène, mais ça n'est pas pour autant abstrait. Et puis, ça n'est pas le faciès ou le faciès, comme Levinas l'utilisait en latin. C'est-à-dire, c'est là que les choses se compliquent notoirement, ça n'est pas le visage. Le visage, ça n'est pas le visage. Je crois que c'est la moins mauvaise définition. Le visage n'est pas le visage. C'est-à-dire, le visage chez Levinas, c'est un vrai concept, ça n'est pas à entendre comme le visage tel qu'on emploie le mot au quotidien. Donc ça n'est pas ce que l'on voit visuellement. Ça n'est pas la face avant de la tête, le visage. Ça n'est pas ça. Donc il faut déjà, c'est un petit peu comme tout à l'heure les bestioles dans l'eau, hein. Il faut déjà essayer de tuer le problème. Quoi, hein. Alors, ma définition préférée, qu'on trouve sous la plume de Levinas lui-même, hein, que je trouve la plus éclairante parce qu'elle est la moins égarante, c'est ça. C'est la nudité d'un bras sculpté par Rodin. Alors, cette année, on discute de la représentation, de l'art, etc. Alors, c'est tiré d'un texte peu connu, qui s'appelle donc « L'autre, utopie et justice », ce qui me permet de faire une petite digression, qui ne va pas vous faire peur, hein. Petite digression méthodologique. La plupart des gens qui parlent du visage chez Levinas citent les deux grands textes, les œuvres majeures de Levinas, c'est-à-dire « Totalité et infini », et puis « Autrement qu'être » ou « Au-delà de l'essence ». Mais j'ai la faiblesse de penser que, alors c'est pas moi, j'ai rien inventé, j'emprunte ça à Jacques Derrida, qu'il vaut la peine d'aller chercher dans les textes dits mineurs. Il faut aller farfouiller dans les marges, dans les textes qu'on ne lit jamais en fait, dont on n'entend jamais parler à l'école. Des textes qui ne sont pas classiques ou qui ne sont pas reconnus comme canoniques. Et c'est là où on va peut-être se donner une chance de décaler la perspective, d'en apprendre un peu plus long. C'est très exactement ce qui se passe avec le visage chez Levinas. Voilà ce qu'il dit, la nudité d'un bras sculpté par Rodin. Donc le visage, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un bras. Preuve que le visage n'est pas le visage. Et preuve que c'est extrêmement complexe, voire contradictoire, mais la philosophie de Levinas est truffée de paradoxes. C'est que ça n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas représenter, mais dans l'exemple d'une sculpture, voilà, ce qui est quand même a priori, c'est contre-intuitif. Alors, bon, question de l'impossibilité de voir le visage comme non perceptible, ça évoque évidemment l'interdit de la représentation dont on a déjà parlé, mais à laquelle il faut revenir rapidement. Petit clin d'œil, voilà encore un Maïmonide. C'est bien un interdit. On est dans le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est le code juridique de Maïmonide. Donc on est bien dans le permis et l'interdit. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur le statut de ce que Maïmonide écrit à ce moment-là. Il dit bien que c'est une interdiction de faire des figures ornementales. Une interdiction. Or, je pense que, en tout cas, ça pour le coup, c'est ma théorie personnelle, donc je la présente comme telle, mais je pense que ce qu'on présente à chaque fois comme relevant d'un interdit, c'est en fait quelque chose qui n'est pas interdit, mais qui est impossible. Alors, je vais l'expliquer, je vais le redire différemment. Ça peut paraître là aussi contre-intuitif parce que on se dit, prenez l'exemple d'un ordre. Vous donnez un ordre à quelqu'un, vous partez du principe que il est possible de réaliser l'action que vous ordonnez. Vous n'allez pas ordonner quelque chose qui est impossible à faire. Ce serait un ordre absurde. De la même manière, quand vous interdisez quelque chose, il est assez logique de dire que vous interdisez quelque chose qu'a priori on pourrait faire. À quoi cela pourrait-il bien servir d'interdire quelque chose qui de toute façon est impossible? Par exemple, l'interdiction, si j'édicte un interdit de voler, alors pas voler dans un magasin, mais voler comme la mouche de tout à l'heure, ou l'oiseau si vous voulez. On ne va pas interdire à quelqu'un de voler, puisque de toute façon on en est incapable, ça serait absurde. Or, je prétends que ça n'est pas forcément absurde, et je prétends qu'il y a un glissement dans l'ordre de la modalité. C'est-à-dire que ce que la Bible, ou la Torah, ou parfois les lois veulent interdire, elles ne l'interdisent pas parce que précisément c'est possible, mais parce qu'elles veulent pointer du doigt un certain impossible. Alors soit, comme le visage, il est interdit de représenter le visage, mais tout simplement parce que c'est impossible. Et Lévinas passera son temps à expliquer ça. Soit, parce qu'il s'agirait d'un autre impossible, alors qu'il parlera au psychanalyste, hein, mais c'est l'impossible du réel, quoi. C'est quelque chose qui, par définition, ne peut pas se faire. Et donc, vous voyez, bon, là, je cite le grand œuvre de Maïmonide, de Lévinas. Le visage est présent dans son refus d'être contenu, ni vu ni touché. Alors, il y a plusieurs tableaux d'un peintre qui s'appelle Eugène Leroy. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose sur ce tableau. Alors, ce qui est assez... Alors, il faut le voir, bon. Ce qui est assez impressionnant, on a eu la chance de le voir dans un musée au Danemark. L'installation était assez impressionnante. Il y avait plusieurs tableaux de Jeanne Leroy au fond d'un couloir. Vous entrez dans le couloir, vous êtes très loin, vous ne voyez que des taches. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous voyez le visage qui se forme, en fait. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que, à la fois le visage est là, et à la fois il n'est pas là, quoi. C'est vous, c'est pas le peintre qui peint le visage, c'est pas le peintre qui le représente. C'est le seul fait de s'approcher et de s'éloigner, en fait, du tableau, qui produit l'apparition du visage, quoi. Voilà. Et ça, je crois que c'est la meilleure définition en acte de ce que Lévinas entend par le visage, en fait. Ça n'est pas de l'ordre de la représentation. C'est quelque chose qui apparaît quand on se tient à la bonne distance, en fait. Voilà, donc ça serait plus une installation au sens artistique, ou une performance au sens artistique du terme, quoi. C'est quelque chose qui se fait en acte. Voilà, ce serait ça. Alors, j'en profite pour, puisqu'on commence à parler d'esthétique, d'évoquer David Gritz. David Gritz était un jeune étudiant franco-israélien, à qui je dédie ce soir mes modestes propos. David Gritz a étudié, donc vous voyez la couverture du livre Lévinas face au beau, en fait c'est après sa mort, en fait, son mémoire de maîtrise, en fait, a été publié à sa mémoire. C'est quelqu'un qui avait projeté de faire une thèse sur Lévinas et l'esthétique. Et puis il a eu la mauvaise idée d'un jour de se trouver dans une pizzeria à Jérusalem. Et quelqu'un a décidé qu'il n'avait pas le droit de manger une pizza à Jérusalem et donc a fait exploser une bombe dans la pizzeria. Bon, voilà. Tout ça pour dire que la question de l'esthétique du visage, c'est une question extrêmement complexe qui a été peu explorée. Alors vous voyez ici un autre tableau de Jeanne Leroy. Alors on voit un peu plus, hein, voilà, la figure apparaît un petit peu plus. Bon. Mais voilà, quand on veut dire que le visage se soustrait à la perception, on veut surtout dire qu'il se soustrait à la prise. Si on le disait de façon temporelle, en jouant un peu sur les mots, on dirait que le visage n'est jamais présent maintenant. Maintenant, vous ne le tenez jamais dans la main. Maintenant. Il appartient à une autre temporalité, à un autre ordre, en fait. Il y a toujours un hiatus, un décalage, en fait. Vous êtes là, pleinement présent. Le visage, non. Il ne participe pas à la même temporalité. Et donc, il se refuse à la possession. Il se mue en résistance totale à la prise. passer là. Autre jeu de mots que moi je trouve parlant, mais le visage, la vis. Vous voyez, c'est une vis d'Archimède. C'est une vis d'Archimède, elle a cette particularité de pouvoir tourner à l'infini. Ça dit quelque chose du visage. Le visage de la vis d'Archimède est un visage, parce qu'il y a quelque chose de l'infini. Vous avez beau tourner autour, jamais vous n'arrivez à le circonscrire. Il y a quelque chose toujours qui va vous échapper, il y a toujours un mouvement incessant qui fait que vous n'allez pas l'arrêter, il n'y a pas de stase possible, il y a une dynamique incessante du visage en fait. Alors, il se trouve que le hasard a fait que la paracha de cette semaine, alors la paracha c'est la portion de la Torah qu'on lit, notamment le Shabbat matin à la synagogue. Il se trouve que la paracha de cette semaine, qu'on va lire dans quelques jours, c'est sur la rencontre entre Ésaü et Jacob, les retrouvailles entre les deux frères. Il y a ce verset là, donc en lisant la paracha, je me suis dit, c'est formidable, où le mot visage apparaît plusieurs fois. Alors, vous excuserez un peu la traduction, alors c'est une traduction, alors c'est la traduction du rabbinat 1899. Que j'ai modifié pour bien rendre les jeux de mots qu'il y a dans l'hébreu. Hein. Donc je veux rasséréner son visage par le présent qui me devance, et puis je regarderai son visage, peut-être se montrera-t-il bienveillant vis-à-vis de mon visage. Vous voyez, le visage, voilà. On a le présent, le cadeau, mais le présent, le maintenant, enfin voilà. Il y a énormément d'échos, et je trouvais que c'est ce verset, c'était une belle synthèse de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et j'étais encore plus intéressé par la représentation qu'un peintre a pu en donner. Vous voyez là, la rencontre, les retrouvailles entre les deux frères, ils vont s'embrasser. Alors je passe sur les... Il y a tout un tas de détails textuels qui sont assez fascinants, mais ce n'est pas le sujet du jour. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, je trouvais que ce tableau était une espèce de représentation, de commentaire sur la définition que propose Lévinas du visage, en fait. Parce que vous voyez, le mot visage apparaît sans arrêt dans le verset. Et dans ce tableau, il ne se regarde pas. Il ne se dévisage pas. Il y a un évitement du visage. Et ça dit bien que le visage n'est pas préhensible, n'est pas compréhensible. Alors, ça a évoqué directement une chanson du groupe Placebo. Dernier album, troisième chanson du dernier album, A Hug's Just Another Way of Hiding Your Face. Embrasser quelqu'un, prendre quelqu'un dans ses bras, ça n'est finalement qu'une manière de cacher son visage, en fait. Et je trouvais que c'était un commentaire assez remarquable de l'embrassade des Ahus de Jacob, en fait, où effectivement, on cache son visage. Hein, il y a quelque chose qui ne se montre pas. Le visage, c'est ce qui est rétif à la démonstration, quoi, et à la monstration. De ce point de vue-là, on pourrait dire que les gens qu'on qualifie de monstrueux, c'est une façon de dire qu'ils n'ont pas de visage. On refuse de leur reconnaître un visage, en fait. Mais il n'y a pas de monstre. Il y a juste des gens. Alors, cette idée du visage évanescent qui disparaît comme ça, je me suis dit, tiens, si on pourrait en donner une définition parodique, en fait. En tout cas, on pourrait détourner la dernière phrase très célèbre de cet long essai de Michel Foucault qui s'appelle « Les mots et les choses ». C'est vraiment la dernière phrase. Célébrissime, mais que je peux détourner comme si c'était un commentaire de la définition que propose Lévinas du visage, quoi. On peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable. Ça n'est pas la destruction annoncée de l'homme et de l'humanisme. Bon, peut-être c'est une lecture possible de Foucault, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ça dit bien que le visage, c'est une... Alors, d'ailleurs, Lévinas le dit comme ça, sous l'influence de Jacques Derrida, mais il y a des relations très compliquées entre les deux. Mais dans Autrement qu'être, Lévinas va le dire comme ça. Le visage, c'est de l'ordre de la trace. Quelque chose est passé, quelqu'un est passé, dont il ne reste qu'une trace. Et cette trace que quelqu'un a passée, c'est le visage. Et donc, autre jeu de mots, mais qui me semble assez parlant, si j'avais un qualificatif à garder pour parler du visage, c'est l'inimaginable. C'est littéralement ce qui ne peut pas se mettre en image. pas ce qu'on ne doit pas mettre en image, mais pas ce qu'on ne peut pas mettre en image. Pourquoi ? Et là, la formule de Lévinas le dit bien, parce qu'en fait, le visage, ça n'est pas d'abord quelque chose qui se montre, c'est quelque chose qui parle, qui dit quelque chose sur le mode impératif. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, le visage n'est pas d'abord un phénomène visuel, c'est pour ça que le visage n'est pas le visage. Le visage, c'est d'abord cet ordre impératif, l'interdit de tuer. Et ça, évidemment, ça me rappelle ce fameux verset de l'Exode, au moment de la révélation de la Torah, du don de la Torah. Ve'chola am ro'im et akolot. Et tout le peuple rassemblé vit les voix. Ils n'ont pas entendu les voix. Ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu les voix. Eh bien, voir les voix, ben, ce ne serait pas une mauvaise définition du visage, en fait. Alors, la pensée de Lévinas est pétrie de paradoxes, peut-être de contradictions, peut-être d'apories, parce que ce sont peut-être des contradictions indépassables. Bon. Notamment, cette phrase, hein, « Autrui est le seul être que je peux vouloir tuer. » C'est-à-dire que le visage d'autrui, c'est à la fois ce qui m'enjoint de ne pas tuer, et c'est à la fois ce qui me donne envie de tuer. C'est-à-dire que c'est par définition ce que je ne peux pas détruire, mais indissociablement, c'est ce qui me donne envie de détruire. Alors, une manière peut-être de... En tout cas, c'est un commentaire, une glose que moi je proposerais, à partir de la lecture de ce livre de Catherine Perret sur la torture. Vous savez, la grande question, enfin, une des questions qu'on pose souvent quant à la torture, c'est mais si vous aviez arrêté des hommes dont, ou un homme dont vous savez qu'il a mis une bombe quelque part et que cette bombe pourrait faire des milliers de victimes, est-ce que vous n'auriez pas recours à la torture pour le faire parler ? Ce qui m'intéresse dans cet argument, c'est fallacieux, c'est l'association intime qu'il y a entre torture et savoir. On part du principe que il y va d'une certaine connaissance. En fait, on torture pour savoir quelque chose. Il y aurait un savoir, il y aurait quelque chose qu'on ne saurait pas. Il y aurait un savoir qu'on voudrait extorquer. C'est-à-dire que la torture comme ce qui viendrait combler une ignorance. Et là, moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez... que les psychanalystes appelleraient peut-être un déni, quoi. C'est-à-dire qu'en fait... En fait, je sais très bien, mais ce que je sais, je n'en veux rien savoir. Et ce que je sais, je fais comme si je ne le savais pas. C'est-à-dire que je sais très bien que je ne peux pas détruire le visage, mais je vais torturer pour détruire le visage comme si je ne savais pas que je ne peux pas le faire. Ça relèverait du déni pur, en fait. Alors, ceci étant dit, retour... El Capitan. Évidemment, j'aurais pu éviter ces digressions, et on aurait pu y aller par la voie normale, plutôt que d'emprunter ce nouvel itinéraire qui a été ouvert par Levitt et Greg Child. Alors, bon, on aurait pu y aller par la voie normale. Alors, allons-y. On aurait pu aller par la voie normale, on aurait pu ouvrir des livres qui nous expliquent Lévinas, en long, en large et en travers, ou peut-être de travers. On aurait pu prendre des citations, prélever des citations dans l'œuvre de Lévinas, comme celle-ci, hein, la représentation assurée à la tradition philosophique, le contact même avec le réel, lui sert, tout en préparant la ruine de la représentation, soutient encore la thèse d'après laquelle tout fait psychologique est représentation ou fondée sur une représentation. Par représentation, il faut entendre l'attitude théorétique, contemplative, un savoir, fut-il d'origine expérimentale. Le corrélatif de la représentation est un être posé, solide, indifférent au spectacle qu'il offre. Les relations qui retiennent de tels êtres, des configurations de tels êtres, se donnent aussi à la représentation. Le problème, évidemment, c'est qu'on n'y comprend rien. Selon le fait qu'on n'y comprenne rien, il y a beaucoup de gens que ça n'arrête pas. l'homme de gauche, alors dans tous les sens du terme, hein. Dans tous les sens du terme, c'est Benny Lévy. Benny Lévy, alors vous savez, alors vous savez peut-être pas d'ailleurs, ça a été l'ancien, enfin, c'était le secrétaire personnel de certain Jean-Paul Sartre, ou du temps où il s'appelait Pierre Victor, pas Jean-Paul Sartre, hein, Benny Lévy. Pierre Victor, parce que c'était l'un des meneurs de la gauche prolétarienne. Et après, il a laissé tomber tout ça, il est allé à Jérusalem, et vous voyez, il fait comme moi, là, il étudie le Talmud. Et donc, c'est Benny Lévy dans les journalistes toujours avides de bons slogans, on dit de Mao à Moïse, vous voyez, c'était bien, hein, de Mao à Moïse. Alors lui, ça l'énervait, il disait non, moi c'est de Moïse à Mao à Moïse. Ça a commencé par Moïse. Oui, voilà, c'est utile de le rappeler, quoi. Il fallait pas sauter cette étape, bref. Benny Lévy, c'est un des trois fondateurs de Machon Elimoudé Lévinas, ça s'appelle l'Institut d'études lévinassiennes, qui est à Jérusalem. Donc il a fondé l'Institut d'études lévinassiennes avec un certain Alain Finkielkraut et puis un certain Bernard-Henri Lévy. Pas BHL, hein. Bernard-Henri Lévy. Faut pas confondre les deux. BHL, c'est la créature médiatique, etc. Bernard-Henri Lévy, c'est quelqu'un de tout à fait respectable qui écrit des trucs tout à fait intéressants. Faut pas confondre les deux, quoi. Pas vous confondre le visage avec sa caricature. Hein. Donc, Benny Lévy, il s'est beaucoup penché sur les écrits de Lévinas, et il y a beaucoup de choses qui l'auraient pilé, ce qui nous fait un deuxième point commun. Il y a beaucoup de choses qui l'auraient pilé, Benny Lévy. C'était par exemple les gens qui recrachaient les citations tout apprises par cœur de Lévinas et leur disaient allez-y, faites les grenouilles lévinassiennes. Le visage, c'est ceci, l'éthique, l'infini, l'amour universel, etc. Bref, ça l'aurait pilé. C'est précisément ce que j'essaie de ne pas faire. Les grenouilles, il ne faut pas oublier que c'est une des 10 plaies d'Égypte. Hein. Il y a peut-être une raison pour ça. Et donc, je vous donne un exemple presque choisi au hasard, enfin pas tout à fait. Donc, une citation classique de Lévinas. Le visage est une immédiateté anachronique, trace de soi-même, le dévoilement du visage et nudité. Et puis il y a des gens qui ont cru bon de convoquer, comme on dit, Lévinas au moment de l'affaire du voile, enfin, des multiples affaires du voile, et évidemment tout le monde y allait de sa petite tirade lévinassienne sur « mais le voile c'est horrible, c'est affreux parce que ça contrevient au visage, et Lévinas nous a appris à respecter le visage en tout homme ». Ce qui est quand même la définition de la bêtise, quoi. Il ne faut pas avoir lu une ligne de Lévinas pour l'utiliser d'une manière pareille. On réduit Lévinas à un slogan, et je ne vois pas comment on peut utiliser la philosophie extrêmement complexe de Lévinas dans cette affaire du voile. Qu'on soit pour ou contre, c'est complètement indifférent. C'est juste qu'on ne peut pas utiliser cette philosophie et s'en servir comme ça. Mais malheureusement, ça n'arrête pas grand monde. Et même le facétieux Paul Ricoeur dit bien la même chose. Voilà. Ce qui compte quand on parle de Lévinas, c'est d'échapper à la paraphrase. Voilà. Et donc, troisième partie de cette intervention, pour une fois, je joue à l'historien, je fais un plan en trois parties, une fois n'est pas coutume. Eh bien, s'intéresser à penseur français que j'admire le plus en ce moment, Yvan Segré, qui est philosophe et talmudiste. Il est aussi bon talmudiste qu'il est bon philosophe et vice-versa. Inutile de dire qu'il n'habite pas en France. Personne ne veut de lui en France. Et donc lui, dans un livre qui s'appelle « Judaïsme et révolution », alors lui, Yvan Segré, pour le situer, hein, c'est pas de Moïse à Mao ou de Mao à Moïse. C'est Mao, enfin, c'est Marx et Moïse. C'est les deux à la fois. Donc il dit, bon, Lévinas étant un grand penseur, ses textes réservent des surprises. Voilà, ce dont ne veulent pas entendre parler les grenouilles lévinassiennes. Et la thèse d'Yvan Segré, c'est que, en fait, en filigrane de toute l'œuvre de Lévinas, il y a un dialogue secret qui se noue avec Marx. Et donc, visage pour visage, il y a une espèce d'effet de miroir là, qui se jouerait en fait entre Emmanuel et Karl. Et Yvan Segré n'est plus tout à fait seul à penser ça, donc en France on est au moins trois maintenant à penser ça. Il y a Lucie Doublé qui a fait une thèse remarquable sur Marx et Lévinas, une thèse qui vient d'être publiée dans une maison d'édition complètement inconnue, parce que personne n'en voulait évidemment, en France. Hein. Et donc, elle remarque, au début de son livre, elle remarque la chose suivante. Elle dit, Lévinas passe pour un penseur apolitique, c'est-à-dire d'un point de vue marxiste, un penseur conservateur. Donc les Lévinassiens ne veulent pas entendre parler de Lévinas et Marx, et les marxistes non plus, pour des raisons qui sont évidemment complètement différentes. Donc on peut penser que puisqu'ils s'accordent là-dessus, c'est qu'ils ont les deux camps autour. Alors évidemment, à première vue, lecture un peu rapide, il y a un texte de Lévinas qu'il a intitulé « Politique après ». Donc évidemment, « Politique après », ça ne plaît guère aux marxistes qui auraient eu tendance à dire « Politique avant » et « d'abord ». Bon. Et donc, on trouve ce genre de citation dans cet article, en fait. La paix est un concept qui déborde de la pensée purement politique. Enfin, voilà. On a l'air dans du Lévinas pur jus, quoi. L'éthique, le visage, etc. etc. Mais, fait remarquer Yvan Segré, il faut se méfier, parce qu'évidemment, quand on... C'est bien le problème, c'est tout le problème de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Quand on cite Lévinas, évidemment, on cite Lévinas, il y a un choix. Il y a toujours un choix de citation. Il y a une citation, c'est toujours articulé à des présupposés, à des attendus, à une visée, à une idéologie, à un usage, à un détournement éventuel. Donc voilà. Donc, à force de citer toujours les mêmes textes de Lévinas, il y a une espèce de renforcement d'un biais cognitif, en fait, où, sans se rendre compte, on fabrique de toutes pièces un Lévinas qui n'existe pas vraiment, en fait, dont on oublie complètement la complexité, et donc on fabrique une caricature. À force de... Le paradoxe, il est là. À force de parler du visage, on fabrique une caricature. Or, on peut lire dans les carnets de captivité de Lévinas. Lévinas a été très très vite, au début de la guerre, en fait, arrêté. Il est dans l'armée française et il a été arrêté. Il a passé quasiment toute la guerre dans un camp de soldats. Et ces inédits ont été publiés il y a quelques années. Et voilà ce qu'il écrit, par exemple. Le vrai problème socialiste est un problème de propriété. Posséder dans le monde qui n'est pas socialiste, c'est être asservi parce que l'on possède. mais c'est Marx, c'est Proudhon, c'est Bakounine. Mais non, c'est Lévinas qui écrit. Incroyable. Incroyable. Donc, politique avant, mais peut-être, parce qu'il y a une petite formule au début de totalité infinie, mais bon, dont les grenouilles lévinasiennes ne veulent pas entendre parler, parce qu'elles qui ont toujours le mot éthique à la bouche. Lévinas dit quand même, il importe au plus haut point de savoir si on n'est pas dupe de la morale. Donc, quand il parle d'éthique ou de visage, etc., il ne fait pas de la morale. Il est hors catégorie. L'éthique chez Lévinas, c'est pas la morale, le visage n'est pas le visage, vous voyez, enfin, voilà, il faut repenser, il faut refondre tous les concepts, c'est une langue très particulière, c'est extrêmement complexe, et on ne peut pas lire ça à n'importe quel. Et donc, ce que dit Lévinas de la morale, c'est très exactement ce que dit Marx, par exemple, ici, de la liberté. Hein, tous ces grands mots dont on se gargarise, il faut quand même s'en méfier. Et dans un article très important, Lévinas écrit ceci, notre vieux texte, alors il parle de la Torah, hein, affirme le droit à la personne, comme de nos jours l'affirme le marxisme humaniste. Donc lui-même, dans un texte assez tardif, et on n'est pas du tout dans les écrits de captivité de la guerre, hein, là on est dans un écrit assez tardif, Lévinas n'a pas bougé d'un poil, et il continue à insister sur une certaine convergence entre une pensée talmudique, vieille de plusieurs siècles, et la pensée marxienne, je ne dis pas forcément marxiste, hein, mais marxienne, de Marx lui-même, qui ne serait pas du tout contradictoire, mais qui serait bien complémentaire, voire convergente. Et évidemment, là où je veux en venir, c'est que le socialisme a un visage humain, quoi. Puisqu'on parle de visage, on pourrait très bien soutenir une lecture originale de l'œuvre de Lévinas, où le visage nous parlerait effectivement d'une philosophie marxienne qui serait soluble dans le talmudisme et qui aboutirait à très exactement ce qu'on a pu nommer dans les années 60 et 70 le socialisme à visage humain. Alors je terminerai sur ces visages-là de Dubček, puisque l'expression du socialisme à visage humain, c'est une expression quand mise en circulation par Alexandre Dubček. Et puis, évidemment, l'immense philosophe tchèque, Jan Patočka, qui est mort sous la torture, un des fondateurs de la charte 77 avec la Babel. Voilà, donc je voulais quand même qu'on termine sur ces beaux visages qui sont l'honneur de l'humanité. Et je vous remercie.
Gérard Manin, le micro.
Il faut que tu rappuies sur le bouton derrière. Le rouge. Allô. Vas-y, ça, c'est joué.
Non.
Oui, c'est bon.
Non.
Ça va venir.
Ouais, voilà. Bien, un grand merci à Gérard Manin. Ça va nous donner plein d'éléments de réflexion. Mais on va y arriver. On a droit à toutes nos questions. Eh bien voilà, je suis doublé. Eh bien tant mieux, je poserai mes questions après. Voilà, alors merci.
Dans les diapos que tu as fait défiler, à un moment, il y a eu une citation « Autrui est toujours plus vieux que moi ». Tu ne l'as pas commenté, est-ce que tu pourrais en dire quelque chose?
Je ne vais pas commenter parce qu'en fait, c'est lire cette idée de maintenant. Le fait que si autrui est ce qui m'échappe, c'est que... Il n'est jamais mon contemporain, dit aussi Lévinas. Si autrui est une trace, c'est qu'il est déjà passé. Donc, alors je vais le dire autrement. Quand j'arrive pour proposer mes services, pour aider, j'arrive déjà trop tard. Alors ça fait partie de... Alors, je suis passé très vite là-dessus, mais je vais revenir... C'est un livre aussi très important de Raphaël Lelouch, Difficile Lévinas, bon, ce qui est un jeu sur Difficile Liberté, qui est un recueil d'articles de Lévinas. C'est Raphaël Lelouch a jeté un petit pavé dans la mare, en fait, peut-on ne pas être lévinasien, au moment où toutes les grenouilles faisaient beaucoup trop de bruit à son goût. Et donc il a publié ce livre qui salutaire, hein, qui montre en fait toutes les difficultés, toutes les apories dans la pensée lévinasienne. En fait. Voilà, et je crois que là il appuie sur quelque chose qui est très important. Lévinas travaille toujours avec deux procédés méthodiques: la déformalisation des concepts, donc on le voit avec visage, hein. Le visage n'est pas le visage, et l'emphase. Alors c'est exactement ça, parce que dans Autrement qu'être, au-delà de l'essence, il dit carrément que je suis toujours en retard par rapport à autrui, j'arrive toujours déjà trop tard, dans une formule qui est assez déridienne aussi. Parce qu'en fait, je suis l'otage d'autrui. Je n'en ferai jamais assez. Et là, il y a quelque chose. Ben, bon. Il y a quelque chose qui... voilà. Je pense que l'oncle Sigmund dirait qu'il y a de la pulsion de mort qui travaille dans la philosophie lévinasienne. Je pense que dire qu'on est toujours on est l'otage de l'autre parce qu'on n'en fera jamais assez, etc., c'est une façon de s'abolir soi-même au profit d'un autre. Et je pense qu'il y a de ça dans la philosophie de Lévinas, et je pense qu'il y a une hyperbole, il y a une emphase qui n'est pas toute du côté de la pulsion de vie, quoi. Voilà. Ça serait une des réserves fortes que j'exprimerais à l'encontre de cette philosophie-là. Ça peut être séduisant, fascinant, et malheureusement, il y a une pente un peu fatale. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Moi, je voudrais faire un jeu de mots, un jeu phonétique, si tu peux me le permettre. Dans le visage, j'ai entendu le visa. Est-ce que ce visage est un visa qui nous permet de voyager en permanence à travers le monde? J'ai eu cette idée que dans le visage, c'est notre visa qui nous permet de voyager.
Alors,
j'entends visa dans visa.
Oui.
Et donc, je me dis, il n'y a pas de hasard. je ne crois pas au hasard. Il y a peut-être un sens étrange entre son visage et le visage.
La seule réponse que je peux faire, c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, dans la mesure où le visage, c'est à la fois ce qui me met en relation avec autrui, et à la fois ce qui déjoue toute relation. Parce que, on parlait de l'aide, un des grands problèmes, un autre problème de la philosophie du bien, c'est qu'en fait, bon, autrui, mais comme il le dira au bout d'un moment, il le dit, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas que moi et autrui. Il y a une tierce personne, il y a toujours un troisième qui arrive, quoi. Il y a des gens, quoi. Si je reste dans une philosophie de moi et d'autrui, on est deux. Mais si j'aide autrui autant que je peux le faire, alors le troisième, c'est-à-dire le deuxième autrui, je fais quoi pour lui? Donc il y a la question de la justice, ça pose la question de la justice, en fait. Bon. Donc c'est, le visage, c'est, de ce point de vue-là, c'est à la fois ce qui permet la relation humaine dans toute sa profondeur, splendeur, dans son idéal, dans son acuité, dans son intensité, et à la fois c'est ce qui l'empêche. Donc c'est ce qui permet de voyager, et en même temps c'est ce qui interdit tout voyage, quoi. C'est une des apories de sa philosophie, quoi. Mais j'aime bien ton idée de visa, parce que le visa, c'est... Ça, pour moi, il y a un lien avec cette idée que le visage est un impératif, donne un ordre. Le visa, c'est une autorisation. On est bien dans ce registre-là, en fait. Donc, de ce point de vue-là, oui. Mais on revient à la question de l'otage. C'est-à-dire que là, ce qui est un peu terrifiant là-dedans, c'est que c'est comme si le visage d'autrui me donnait mon visa pour exister, quoi. Et là, il y a quelque chose d'un peu mortifère, quoi. Enfin, il y a qui gagne. Voilà.
Si. Au début, quand j'ai vu le El Capitan que tu as présenté sur une diapo, ça me disait quelque chose que je connais. Enfin, je ne suis pas un grand montagnard ni un escaladeur, donc je me disais comment je peux connaître ce nom qui me disait quelque chose. Et puis j'ai réfléchi et j'ai retrouvé la solution. C'était en fait, moi je suis sur Mac. Et sur macOS, il y avait une version qui s'appelait El Capitan, où on voyait justement cette montagne sublime. Et j'ai compris le pourquoi de ce, ça me disait quelque chose. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point fait rapport à ma profession, c'est-à-dire que moi, je fais beaucoup d'échographie, je m'intéresse beaucoup à l'échographie obstétricale. Et quand on fait des échographies chez les femmes enceintes, en général, les femmes souhaitent voir deux choses absolument, c'est le visage et le sexe.
Et ça serait un très beau titre de livre, ça. Je te vois bien écrire ça.
Alors, en fait, on a trois modalités d'échographie, qu'on utilise en pratique. C'est le 2D, c'est-à-dire dans deux dimensions, où on cherche à voir essentiellement le nez et les lèvres, parce que ça permet de dépister en particulier les malformations de la biopalatine. Après, il y a le 3D, qui est une formation où on peut voir un peu l'ensemble du corps, mais de manière fixe. Et puis, il y a le 4D, où on a le 3D, mais en mouvement. Donc, il y a une question de voir le visage en mouvement. Mais en tout cas, l'autre côté... Alors, c'est...
Je te coupe, puisque on est là-dessus. Donc, on est bien d'accord que... C'est très intéressant parce que ce qu'il faut bien appeler cette fascination pour le visage, quoi. Ça n'est pas ce dont parle Lévinas, hein. C'est pas le visage au sens de Lévinas. Voilà. Non, mais là on est bien dans le faciès, quoi. Voilà. Mais étrangement, il y a une vraie fascination pour le visage, effectivement. Et on peut se demander si. Là, je pense que chez Lévinas, il y a à la fois la volonté de s'arracher à cette fascination. Un des premiers textes, c'est un tout petit livre que j'adore, ça s'appelle De l'évasion, où Lévinas parle justement de s'arracher, une espèce d'engluement comme ça, et c'est ça. Enfin, il essaye, par sa philosophie du visage, il essaye de s'arracher à cette fascination du visage, et en même temps, il y retombe d'une autre manière. Par cette idée que je suis otage du visage d'autrui, je reste fasciné. Fasciné, étymologiquement, c'est quand même attaché, quoi, lié. pieds et poings liés. Quoi. Donc, je pense qu'il est assez symptomatique, pour le dire de façon freudienne, que Lévinas ait écrit des carnets de captivité, ensuite un livre qui s'appelle « De l'évasion », et qu'il n'arrive... Et je pense que toute sa vie, il a essayé de se dépêtrer de ça. Il n'arrive pas, c'est la lecture que j'en ferai, il n'arrive pas, malgré la grandeur de son œuvre, il n'arrive pas à s'arracher à une certaine fascination. En fait. Alors après, pourquoi est-ce qu'il a été fasciné par le visage? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa petite enfance, etc. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais allongé sur mon divan.
Pour en terminer, je voulais souligner pourquoi les femmes souhaitent voir le visage et le sexe. C'est qu'en fait, le sexe représente aussi le futur, c'est-à-dire la descendance du futur bébé. Et donc, je pense qu'elles veulent savoir un petit peu l'avenir, un petit peu. Alors, le visage peut être une forme déjà d'avenir, et le sexe en représente une encore plus loin, puisqu'on va au-delà de l'être lui-même.
Ce qui, ce qui rejoint d'une autre manière la question de l'interdit de la représentation, il y a une forme d'idolâtrie là-dedans. Quoi. Où je veux connaître et je veux savoir maintenant, ce qui va advenir plus tard. Ça s'appelle l'idolâtrie.
Alors moi je crois que je vais jouer les grenouilles. Bon, c'est pas très cachère, je reconnais. Mais moi j'ai compris un peu Lévinas, à ma façon. Mon livre est en 1000 morceaux tellement je l'ai relu et tellement ça m'a plu. Et il y a des années de cela. Hein. Et c'est par Catherine Chalier. Tu l'as montré tout à l'heure, tu n'en as pas parlé. Lévinas, l'utopie de l'humain. Et moi, là, j'ai pu comprendre tellement de choses qui sont beaucoup en rapport avec la Torah, c'est-à-dire la Bible, qui sont en rapport avec l'autre. Et de ce que dit Lévinas, il cherche le visage de l'autre. Il le cherche pour une fraternité, pour, moi je ne sais pas si c'est une forme de reconnaissance. Dans tout ce que tu nous as dit, j'ai entendu pas le contraire, parce que non, ce n'est pas les traits du visage, je suis certain, c'est bien au-delà des traits du visage. Mais dans cet autre, qui est autre que moi, c'est de reconnaître quelque chose, peut-être un peu comme les deux frères qui ne se sont pas regardés, mais qui se sont pris dans les bras. Et je me dis que peut-être aujourd'hui, c'est ça aussi. On a du mal à se reconnaître, on a du mal à se voir, tu vois. Et pourtant, on se regarde, on ne s'embrasse pas là. Moi, j'ai dit à tout le monde, non, je n'embrasse pas ce soir, je n'embrasse pas parce que... Et finalement, de ne pas embrasser, on regarde l'autre en lui disant bonjour. Ça m'a bien plu dans ce que tu disais. Et le côté de la fraternité. Alors, j'ai des belles phrases. Alors, tu vas dire, voilà, c'est là où je suis la grenouille. Hein. Moi, je prends les phrases, oui, parce qu'elles me touchent. Je ne sais pas les redire aussi bien, mais elles me touchent. Que chaque homme, proche ou lointain, puisse sortir de l'anonymat et devenir visage pour moi, constitue le fait originel de la fraternité. C'est une phrase de Lévinas. Ce n'est pas Catherine Chalier. Alors des phrases comme ça, j'en ai plein le livre. Donc j'ai pu le lire en comprenant. Voilà. Qu'en penses-tu, Gérard? Que penses-tu de moi pour une grande
Alors, mouille je n'ai pas parlé de Catherine Chalier.
Non.
Pour plusieurs raisons. Je vais citer Derrida. Dans une série d'entretiens que Derrida a accordé à Elisabeth Roudinesco, qui s'appelle « De quoi demain ?» Alors voilà, « De quoi demain ?» ça fait « De quoi demain ?» C'est paru aux éditions Flammarion en 2001. Roudinesco lui demande « Mais en fait, vous tournez tout le temps autour des mêmes penseurs, des mêmes auteurs. » Lui demandant à Derrida, finalement, pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir un peu ailleurs, quoi. Il y aurait quand même des gens dont on devrait parler. Enfin, voilà, il y a une espèce de petit reproche dans la question de Roudinesco. Et c'est en haut de la page 18. Derrida, il dit ce que je n'admire pas, je n'en parle jamais. Donc je ne parle pas de Catherine Chalier.
Alors, mais tu la montres pas, mais tu la montres quand même.
Oui.
Moi, je voulais revenir sur des. Moi aussi, je vais faire la grenouille sur des histoires juives que j'ai mélangées. La première, c'est comment on sait que le jour se lève, c'est quand on peut reconnaître la figure de son ami. Et puis, une deuxième histoire du même genre, que je suis en train d'oublier, par rapport à... oui, voilà, on va oublier la deuxième histoire juive, mais je pensais en t'écoutant à Merleau-Ponty aussi, à tout ce qui tourne autour de la phénoménologie et de la construction de l'image. Et la construction de l'image, elle est le fait à la fois de tout un tas de données parfaitement subjectives, d'un contexte culturel, tout ce qu'on voudra, mais finalement, ça finit par dissoudre le visage qu'on regarde. Parce qu'on ne regarde pas un visage, on regarde une personne. Voilà. Et il me semble qu'il y avait des tas de choses, en t'écoutant parler de Lévinas, qui tournait autour de ça, et notamment, pour moi, la dernière idée, c'était que le visage... j'ai essayé de lire un livre de Lévinas qui est tout petit, qui s'appelle « L'humanisme de l'autre homme », où il explique très bien ça, disant que finalement, le visage, quand on reconnaît le visage d'un homme, la première chose qui surgit, c'est l'interdiction du meurtre. Voilà. Et pour moi, c'est un petit peu ça que je retiens. Alors, je suis sûr que je suis en train de faire aussi la grenouille.
Non, mais... Le fait que le visage soit... C'est compliqué d'en parler, hein, parce qu'on ne peut pas dire « incarne », puisque... Voilà. Le visage, c'est d'abord... C'est interdit de tuer. Ok. Je n'ai pas de problème avec ça. Après, ce que tu appelles la blague juive sur le lever du jour, là... Alors ça, c'est dans le traité Brachot, hein, c'est un traité Brachot, en fait, où on se demande à partir de quel moment on a le droit de réciter le Shema Israël le matin. Et une des réponses, parce que... Alors c'est là où... C'est une des réponses. Ça n'est pas le Talmud dit que. C'est dans cette page du traité Brachot, une des opinions possibles, c'est ça. C'est à partir du moment où je reconnais à quatre coudées le visage d'un ami. Voilà. Ce n'est pas le visage au sens de Lévinas. Là, c'est un phénomène visuel. Enfin, on peut gloser, on peut le tourner, on peut en faire beaucoup de choses. Mais je serais très prudent sur des analogies trop faciles. Voilà, je serais très prudent. Moi, je pense que s'il y a une chose à retenir de ce que j'ai dit, c'est ça, c'est l'appel à la prudence. Ne pas penser qu'on a compris trop vite, quoi. Voilà.
Alors, est-ce que vous permettez que j'ose une analogie audacieuse?
Non, mais surtout si elle est audacieuse.
Je ne sais pas. Parce qu'en écoutant ce que vous dites et ce que dit Lévinas sur cette perception du visage, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la perception de Dieu lui-même? Parce que dans les termes que j'ai notés, je me dis, mais on est presque dans le même ordre. J'ai noté quelque chose qui apparaît quand on se tient à bonne distance, qui se soustrait à la perception, qui est de l'ordre de la trace, du jamais maintenant. Et je me dis, est-ce qu'on peut oser dire que ça nous dit quelque chose de Dieu?
Ah mais vous avez tout à fait raison. Tout le lexique lévinassien, surtout dans Autrement qu'être, hein, alors c'est déjà un peu vrai dans Totalité infinie, mais ça prend des proportions incroyables dans Autrement qu'être. Il parle de transcendance, de visage, etc. Oui, oui, tout à fait. Il y a une espèce de... Alors, comment le dire? Il n'y a pas de terme neutre pour décrire ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une convergence, est-ce qu'il y a une compatibilité, est-ce qu'il y a... Enfin, certains... Vous savez, ça me rappelle le destin de ce malheureux Gilles Bernheim, l'ancien grand rabbin de France qui a été traité comme un malpropre par des institutions qui sont indignes de lui, et qu'on a, comme d'habitude, en pareil cas, qu'on a accusé de christianiser, on s'est demandé si Gilles Bernheim ne s'était pas converti en privé, etc. Enfin bon, voilà, enfin, vous voyez, c'est ce genre de dyneptie, quoi. Ce sont des questions qu'on a posées à propos de Lévinas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Enfin, si ma mémoire est bonne, hein, il doit même utiliser le mot kérigme à un moment. Enfin, il y a un lexique christianisant chez Lévinas, quoi. Oui. Alors après, c'est très complexe. Est-ce que... alors, c'est sans doute le lexique... christianisant, oui. Évidemment, après, la question, c'est quel christianisme ? Parce qu'on peut voir aussi, il y a de très belles analyses de fins connaisseurs de l'œuvre de Lévinas, je pense notamment à Guy Petit-Demange, qui réfléchit sur Lévinas et la gnose, par exemple. Il y a une dimension gnostique chez Lévinas, que tout se passe comme si il y avait... une lutte comme ça entre le bien et le mal, les forces d'en haut et les forces d'en bas, la matière et l'esprit. Enfin, il y a quelque chose d'assez... C'est presque du manichéisme, quoi, chez Lévinas, quoi. Et, avant de commencer, on évoquait le Lévinas des lectures talmudiques qui se définissait lui-même comme un talmudiste du dimanche. La formule en dit long, de ce point de vue-là.
Peut-être. Et pour enfoncer les clous,
je te laisse la responsabilité.
La référence est osée.
Il fallait la faire, mais
voilà. Écoute, on peut tout aussi.
Bon, attends, j'ai un mot prononcé pour le blasphème, mais.
Sur cette question du visage, on a l'impression qu'il y a une recherche, une dépulsion mystique. Il y a un mysticisme dans son interrogation face par rapport au visage.
Oui, en t'entendant parler de ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est une expression de l'historien britannique marxiste, Eric Hobsbawm, qui, sur le XXe siècle, qui a écrit un livre sur le XXe siècle, qui parlait de montée aux extrêmes. Mais très clairement, chez Lévinas, il y a une montée aux extrêmes, quoi. Il y a un goût pour l'hyperbole, enfin, c'est Raphaël Lelouch qui parlait de l'emphase. Il y a un goût pour l'hyperbole, pour l'exagération, pour la montée aux extrêmes en termes de conceptualisation, qui est très très prononcée, oui. Oui, tout à fait. Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire un mystique contemporain d'aujourd'hui ? Une nouvelle forme de mysticisme ?
Oui, il peut y avoir une mystique du visage, oui. Je pense, oui. Mais oui.
D'autant plus qu'on a l'impression que c'est un enjeu entre un risque d'enfermement ou une possibilité de libération. Ce jeu, est-ce que le visage va me libérer ou est-ce que le visage m'enfermera ?
Oui.
Et là, on est au cœur du mysticisme.
Là, il y a une équivoque. Là. Là, il y a une équivoque. Oui. Alors après, mysticisme, oui, au sens où, il faut en priver.
D'autant
on s'entend sur ce qu'on veut dire par mysticisme.
La définition est vague.
Voilà. Mais je parlais de, s'agissant de Maïmonide et de Maître Eckhart, par exemple, je parlais de via negativa, de voix négative, pour parler de Dieu, etc. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas représenter le visage. Le visage, c'est pas la caricature, c'est pas le faciès, c'est pas la figure. Il y a un moment où on ne peut plus rien dire. On va vers l'ineffable. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Ça c'est vraiment... C'est presque une négation du concept, quoi, et de toute la... Il y a une espèce de je le dirais comme ça, il y a une espèce de... Il y a... il y a une exaspération chez Lévinas, au sens où ça devient outré, et il y a une espèce de... C'est une des formes que prend la destruction de la métaphysique, quoi. Clairement. C'est une façon d'en finir avec la métaphysique. Oui. De ce point de vue-là, au plan théorique, à l'histoire de la philosophie, il y a quelque chose de très. De très nihiliste, presque. Et à un moment, il n'y a plus rien à dire, quoi. J'ai presque passé mon temps à vous dire que je ne sais pas trop comment le dire. Hein.
Mais il y a de l'extase. Dans le nihilisme, il y a une dimension.
Oui, alors après, puisque le mot est prononcé, alors allons-y. Il ne faut pas oublier que. Alors, je le dis avec. With trepidation, comment on dit en français, avec crainte et tremblement. Il ne faut pas oublier que Lévinas a étudié avec Husserl la phénoménologie, mais avec Heidegger aussi. Hein. Et que l'extase, c'est un concept heideggerien. Quoi. Et je pense que quand je parlais de fascination, de difficulté à s'arracher, dans de l'évasion, il parle de la difficulté de s'arracher de l'Ilia, etc. C'est des termes heideggeriens qu'on trouve dans un Gonsight. Enfin, voilà. Donc d'une certaine manière, Lévinas aura cherché à se désempêtrer de la philosophie de Heidegger. On peut aussi le lire comme ça. Quoi. Même si, sans doute, bon, c'est compliqué, surtout en France, hein, parce que Heidegger prend il occupe une position très particulière en philosophie française, mais malheureusement, c'est quand même une figure incontournable. Quoi. Donc, c'est très compliqué. Ouais.
Alors, une question, et je pense que je vais rejoindre un petit peu les deux interventions précédentes. Est-ce que quelque part, on n'atteint pas ce qu'on pourrait appeler un mur de Planck, c'est-à-dire une limite à notre pouvoir? Et on passe dans quelque chose qui crée une fascination totale parce qu'on aimerait aller au-delà et on ne peut pas. Et même en allant toujours plus loin, en se questionnant toujours plus, on trouvera plein de choses, mais jamais de vraies réponses. Et pour les femmes, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire je deviens créatrice d'une vie, qu'est-ce qu'elle sera? Si je vois un bout du visage, peut-être que je vais comprendre un petit peu ce qu'il y aura comme essence derrière tout ça, comme... pouvoir, comme... Donc c'est aussi, ça nous appelle aussi au lâcher prise, à l'acceptation, à tout ce qui est, là c'est une limite franche, l'autre, l'altérité, et en même temps l'humain, donc moi, mais avec une limite matérielle qui est posée, qui est quand même franche, même si c'est pas le visage dont parle Nas, et derrière ce mur de Planck, eh ben l'absolu, tout, en fait, tout. Donc la fascination totale.
Oui, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça comme ça avant de vous parler, mais le mot a quand même beaucoup circulé, donc ça doit vouloir dire quelque chose. Ce mot de fascination, il revient beaucoup. Je pense que oui, c'est un des nœuds de la philosophie de Lévinas, puisque j'ai utilisé le mot tout à l'heure, et c'est très très paradoxalement, pour le dire dans les catégories les plus classiques et les plus traditionnelles du judaïsme, voilà, ça confine à l'idolâtrie, quoi. Clairement. Enfin, cette idée, je vais le dire autrement, je vais parler en talmudiste. Cette idée qu'il y aurait de l'ineffable ou qu'on attend, voilà, il faut lâcher prise ou qu'il y aurait, voilà, alors ça c'est tout sauf talmudiste, quoi. C'est-à-dire que nous on va gratter jusqu'à ce que, enfin, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le dire. On va créer des concepts, on va arriver. Pourquoi on n'y arriverait pas à le dire, enfin, il y a un vrai malentendu au sens où on est presque dans deux univers parallèles qui ont du mal à.
On rejoint quand même l'impossibilité de le représenter.
Mais de représenter quoi?
C'est-à-dire que par le questionnement, on essaye de trouver, on cherche, on avance,
ouais.
On essaie quand même de trouver une réponse, mais
oui.
On n'en a pas. Donc c'est une croissance, un épanouissement, enfin, je ne sais pas quel mot serait juste. Ça se rejoint, on cherche aussi, je ne parle pas de stop, on ne peut pas chercher, mais il y a une dimension qui nous dépasse, qui crée une fascination et d'aboutissement concret à ces questionnements. On ira toujours plus loin, c'est sans limite. Parce que c'est peut-être divin, mais sans idolâtrie. C'est pas une vénération du visage, matière. C'est de ce que ça...
Oui, mais pour moi, s'il y a fascination, il y a un problème.
S'il y a un problème, si c'est fascination de la matière, de l'esthétique...
Ah non, c'est pas une question de matière ou d'esprit. C'est le phénomène de la fascination qui pose un problème en soi. La fascination est pathologique.
Alors, quand on dit fascination, c'est questionnement. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière fascination.
Ah oui, mais fascination, moi, je l'entends comme d'habitude, c'est-à-dire à la lettre. Non, mais je veux dire, en talmudiste, c'est-à-dire à la lettre. C'est la fascination, c'est fasciste. Fascination, c'est le faisceau, c'est ce qui lie, c'est ce qui attache. C'est ce qui rend prisonnier, c'est ça, la fascination.
Même si
c'est ce qui sidère, c'est ce qui... quand vous êtes sidéré, vous ne réfléchissez pas, quoi. Vous n'êtes pas dans
un... n'est pas un seul visage, parce que idolâtrie, fascination, alors dans le sens qui attache, et idolâtrie, c'est quand même, ce serait pour un seul visage, comme pour une représentation. Comme on peut avoir de l'idolâtrie pour une représentation. C'est-à-dire si on devenait fasciné par un visage, le visage. Mais quand c'est un questionnement de l'humain, c'est-à-dire on a des visages avec une limite qui nous est posée de l'endroit où on ne pourrait jamais aller. En fait, c'est facile.
Non, c'est moi qui étais ma limite, là. Je ne suis pas sûr de vous suivre, mais de comprendre. C'est moi, hein. C'est pas...
Non, c'est
moi.
Mais mal l'exprimer.
Est-ce que le visage, c'est l'enjeu entre le fini et l'infini ?
Le mur de Planck.
Alors on se retrouve, on est balancé, on croit à une finition par le visage, mais en fait derrière, il y a
oui, ça catapulte vers de l'infini, ou vers, c'est ouais, ça ce que dirait
Lévinas. C'est pas forcément de l'idolâtrie, cette invitation à l'infini n'est pas que du domaine, il y a peut-être un risque, mais c'est pas forcément d'idolâtrie.
Non, mais c'est parce qu'on parlait de fascination, c'est pour ça.
Oui, la fascination.
Il y a une fascination.
Oui, aussi, ouais.
Il y a une facilité, tout se passe comme si Lévinas ne voulait pas que ça ait un bout de face. Il y a une espèce de facilité, il y a une sorte de vertige quand même dans ce. On relance chaque fois la machine, chaque fois qu'on va aboutir à une réponse qui pourrait. Hop, on relance la machine, mais ça devient une espèce de. C'est ma vis d'Archimède qui tourne à l'infini, ça peut tourner à vide aussi au bout d'un moment. Enfin, oui, donc.
Une vis sans fin.
Alors après, c'est la vis, mais c'est le vice aussi. Très équivoque.
Mais c'est mortifère.
Oui, moi je.
Bah oui.
Je pense que. C'est pathologique là-dedans. Mais...
Où est merveillement?
Oui, mais alors, si vous utilisez ce mot, alors, je suis obligé de revenir à...
On va vers une grenouille, vous me faites peur.
Où est-il Je ne trouve pas. C'était du sacré au sein, mais pourtant c'était vers la fin, il me semble bien. Ne m'aidez pas. Hein.
Qu'est-ce que tu cherches ? On a tout noté. C'est tellement limpide pour nous que vas-y, dis-nous, on t'expliquera.
On va devenir un flasant.
Non, c'était du sacré au sein.
Contrôle F.
C'était du sacré au sein, mais c'est pas grave. Oui, donc dans le sacré au sein, c'est des lectures talmudiques. Il oppose en fait Lévinas en fait conceptualise le sacré et le saint. Donc pour lui, la sacralité, c'est ce qui relève de la catégorie. Alors c'est pas lui qui a inventé les termes, hein, mais il reprend ça à des anthropologues, des historiens des religions, etc. Du numineux, le mysterium tremendum, c'est ce qui fait. C'est parce que voilà, il utilise le mot d'émerveillement. Quoi. Et ça c'est du côté du sacré. Or lui, ce que Lévinas cherche, ce qu'il essaye de creuser, c'est la sainteté. La sainteté, c'est de l'ordre de la distinction, de la conceptualisation, de la distance. voilà, de la différenciation, on n'est pas dans le, on n'est pas dans l'enthousiasme, on n'est pas dans le, justement, on n'est pas dans la fascination où le sujet se fond avec l'objet, quoi. Et il me semble que, je le dis autrement, il me semble que ce qu'essaye de faire, enfin, il me semble que ce que fait Lévinas talmudiste est contredit par ce que fait Lévinas philosophe. Pas parce qu'il y aurait une contradiction inhérente entre le Talmud et la philosophie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je parle de Lévinas vraiment dans un cas singulier. C'est-à-dire que l'étude talmudique, c'est l'anti-fascination. Quoi. C'est l'antidote à la fascination. Moi, ça serait une de mes définitions. Or, force est de constater que plus Lévinas pousse son investigation philosophique, plus il cède à la fascination. Donc là, il y a un tiraillement, quand je disais qu'il n'arrivait pas à s'arracher une espèce d'engluement, il est empêtré là-dedans, quoi, je pense. Et je pense que de ce point de vue-là, il est assez symptomatique, on pourrait parler de clivage peut-être, il est assez symptomatique qu'il y ait ce versant philosophique et ce versant talmudiste du dimanche. C'est-à-dire que c'est deux choses qui coexistent, qui n'arrivent pas à... Il y a une désintrication pulsionnelle. Il y a une désintrication chez Lévinas, quoi. Clairement. Quoi.
C'est assez amusant parce que ça rejoint aussi, je vous parlais du mur de Planck, plus l'aspect scientifique, et combien de prix Nobel archi-cartésiens, archi-scientifiques vont avoir cette même dissociation ou cette même, ce même phénomène qui apparaît au fur et à mesure de leur vie, en particulier Einstein, mais d'autres aussi. On retrouve en fait toutes ces personnes qui finalement sont dans une quête, mais l'abordent, certains par la science, d'autres par des lectures, par le Talmud ou autres, peuvent à un moment donné entrer dans des dimensions comme ça où les choses finalement se rejoignent toutes. Ou vont se rejoignent ou se séparent, ou divisent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ont un même cheminement qui va les emmener à quelque chose qui peut sembler opposé à ce qu'ils sont à l'origine, mais qui cohabitent, enfin, qui avancent bien ensemble, et aboutissent à quelque chose de remarquable.
Enfin, remarquable ou... Oui, non, mais Lévinas, mais oui, bien sûr, mais enfin, moi, je suis sur le... Enfin, là-dessus, je suivrai... Raphaël Lelouch et Yvan Segré, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le tri. Quoi. Il y a un droit, comme dirait l'autre, il y a un droit d'inventaire. Hein. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça que c'est abordé. Ouais. Moi, très méticuleux et. Pas se laisser justement fasciner par ça. Alors cette prose, qu'il faut le reconnaître, qui est extraordinaire. Hein. Enfin, autrement qu'être ou d'adolescence, c'est extraordinaire. Ça se lit comme un roman. Enfin, c'est un souffle, il y a voilà, quelque chose. Quoi.
Est-ce qu'on pourrait parler d'une séduction
oui.
Pour arriver à la fascination
oui. Oui.
Séduisant. Il le voit comme quelque chose de libérateur. C'est ça qui est étrange. Est-ce que séduit par le visage, on s'en libère et on se libère par la... Par cette séduction des visages.
Mais lui, il ne cherche pas à s'en libérer. Enfin, il voit pas le... enfin, si, vaguement, ben, quand il dit qu'il pose la question de la justice avec le tiers, etc., enfin, il voit bien qu'il y a un problème. Il voit le problème, mais il n'arrive pas à résoudre.
C'est pas quelque chose d'obsessionnel.
Si. Mais la question, c'est... Il n'y a pas quelque chose d'obsessionnel, c'est ça ? Parce qu'on n'entendait pas pour leur
bon petit... C'était une bonne petite obsessionnelle. Si, si, ouais. Ouais, si, si, j'ai peur. Et il n'a pas, moi, ma... Bon, continuer là-dessus. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous avez un peu lu, il y a ce fameux monsieur Chouchani. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, monsieur Chouchani. Alors, monsieur Chouchani, c'est une espèce de personnage semi-légendaire. Alors, monsieur Chouchani, récemment, il y a une universitaire qui a fait une vraie enquête là-dessus pour essayer de percer le mystère. Hein. C'est un type qui a été. C'est un peu John Lennon, quoi, après sa mort. Quoi, et c'est, Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a croisé à un moment donné, à Pékin, à Strasbourg, à Johannesburg, à New York, dans le Yosemite, en train de grimper El Capitan. Enfin voilà. Et donc, M. Chouchani aurait été une espèce de génie polymathe qui aurait vécu quelques années à Paris. Bon, c'est un peu le juif errant, façon XXe siècle. Et donc, il aurait été pendant quelques années le maître de Talmud d'Emmanuel Lévinas. Bon, et alors, une hypothèse, parce que, ce que je défendrais assez volontiers, c'est qu'en fait, ben Lévinas aurait essayé de se soigner par le Talmud et il n'y est pas arrivé. Moi, ça serait une lecture que je soutiendrais assez volontiers. Voyez, je connais des gens qui se soignent par le Talmud et qui y arrivent pas mal. Et puis il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà.
Mais t'as pas parlé de sa famille, mais...
Non.
Ils ont été exterminés pendant la guerre, je crois.
Ah oui.
Et donc, est-ce que ça l'a pas inspiré
Alors, la dédicace, alors, c'est la totalité infinie. Il y a une dédicace aux 6 millions de juifs assassinés. Voilà. Après... ça me va bien dire ça, mais pas de psychanalyse sauvage. Mais bon... Je ne sais pas. Mais bon, enfin, je laisse infuser rapidement, mais ce que tu viens de dire, mais
de pas voir les visages.
Peut-être qu'il y a, alors il y a quelque chose qui relèverait peut-être de ce qu'un théoricien américain Harold Bloom a appelé c'est une espèce d'angoisse de. Excusez-moi, j'ai lu tout ça en américain, donc c'est une angoisse suscitée par l'influence, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaye de fabriquer là sur le moment ma thèse, j'essaye d'étayer ma thèse sur « il a essayé de se soigner par Talmud, il n'y est pas arrivé ». C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est un Litvak, c'est-à-dire que c'est un juif lituanien. Or, qu'est-ce que c'est que la Lituanie? Je vais commencer comme ça, je vais finir comme ça, c'est la Mecque des études talmudiques. Vilno, c'était la Nouvelle Jérusalem où on étudiait le Talmud, quoi, avec des méthodes très très modernes, très performantes, enfin vraiment innovantes. C'était voilà. Bon, aujourd'hui, dans les yeshivot, enfin, on étudie encore à la mode lituanienne, parce que c'est quand même une méthode conceptuelle qui est assez incroyable, quoi. Et bon, ben, une hypothèse, c'est que il y a une voilà, c'est son surmoi lituanien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de ses ancêtres, quoi. Parce que lui, il ne sait pas faire, hein. Il ne sait pas étudier le Talmud et il en crève, quoi. Et donc, il va essayer de se dépatouiller avec ses théories d'en plus finir, hein, sur le visage, etc., quoi. Parce qu'il n'y arrive pas. Il le sait, hein. Il le sait. Le talmudiste du dimanche, c'est pas rien, quoi. Il le sait qu'il n'y arrive pas, qu'il ne sait pas faire. Et c'est, je veux dire, je lis, je relis ces lectures talmudiques, hein, c'est passionnant, hein. C'est absolument pas du Talmud, quoi. Mais il le sait, il vous vend pas autre chose, hein. Il le sait. Et en plus, ça devait pas, sa position ne devait pas être très 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 confortable, hein. Il était obligé de donner des leçons talmudiques devant des rabbins qui étaient talmudistes eux-mêmes, quoi. Allez, masochisme. Ouais, non, c'est une position qui devait être assez inconfortable. Assez inconfortable. Mais oui, c'est fait. Tout ça pour vous dire que c'est à la fois de la très haute philosophie, et à la fois, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, c'est pénétré de contradictions, c'est de tensions, de, voilà. C'est ce qui est beau aussi, c'est une trajectoire humaine. Hein. Il n'y a rien de dépréciatif, hein, ce que je dis. C'est constater l'humanité dans ses pétris, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est éminemment respectable. C'est éminemment respectable. Ce que je respecte moins, c'est les gens qui en font n'importe quoi. Mais ça, voilà, c'est son parcours à lui, hein. Chacun bricole avec ce qu'il a.
Dans le rapprochement que tu as fait avec Marx, enfin, les influences marxiennes, tu dis, et non pas marxistes, dans l'œuvre de Lévinas, est-ce que tu entendais dire que c'était un dévoiement ou un enrichissement de la pratique talmudique?
Ah, si. Alors, Yvan Segré et moi pensons que c'est absolument. Il y a une convergence. Bon, je veux dire, là, Yvan Segré. Yvan Segré, c'est assez brutalement. Il dit voilà, ok, en gros, il y a deux types de juifs. Il y a le juif bourgeois et le juif ouvrier. Quoi. Et le talmudiste, il a choisi son camp. Ah ouais. J'ai retrouvé Yvan Segré sur Akadem. Il a commenté la paracha pendant quelques mois. Et puis sur un site un peu gaucho anarchiste qui s'appelle Lundi Matin. Lundi Matin, on rêve pas de grand soir, hein, on est juste au lundi matin. Où il y a toute une série d'articles. Très bon. Je ne sais pas si vous connaissez la revue K. C'est une revue qui est en ligne depuis quelques mois. Revue K, comme K, la lettre K. Très bien faite. Et notamment, donc Yvan Segré a écrit un article que j'ai jugé absolument remarquable. Voilà. Si vous voulez, c'est accessible, c'est gratuit. Je pense que sur le site Lundi Matin, il doit y avoir. Je ne sais pas si c'est là ou si c'est ailleurs. Enfin, c'est facilement trouvable. Vous avez un compte rendu circonstancié de ces démêlés avec une certaine Catherine Chalier. Et ça ne l'agrandit pas. Ce sont des faits rendus publics, circonstanciés. C'est pas un article d'opinion, c'est un procès verbal, au sens le plus judiciaire du terme. Yvan Segré n'a pas pu passer sa thèse en France à cause de Catherine Chalier, par des magouilles infâmes. Donc c'est absolument public. Donc non, c'est tout sort de l'opinion personnelle. C'est absolument répertorié, c'est officiel. Sinon. Il aurait été attaqué pour diffamation, ce que tout le monde à la Sorbonne s'est bien gardé de faire.
Alors, une dernière, on arrive vers la fin. Voilà. Bon, je vais présenter, on va se retrouver en 2025. Ça sera le 15 janvier 2025. Avec le père Alain Fournier Bidot. Voilà, j'ai bien prononcé Bidot, s'il y a un joli Z à la fin. Non, il est muet. Il est muet, d'accord. Voilà, donc nous écouterons le père Alain Fournier Bidot. Le titre, Image pour dire Dieu, l'audace des prophètes.